Dutrisac.
Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons d'orange.
Docteur France Proulx est avec nous, elle est psychiatre légiste à l'Institut national de psychiatrie légale. Philippe Pinel, Docteur Proulx, bonjour.
Bonjour, Monsieur
Dutrisac. Écoutez, on devrait avoir une heure d'entrevue, vous et moi, là. Ben, on va sûrement le faire un jour. Mais hier, votre texte est vraiment intéressant, publié dans Le Devoir. Essayez de comprendre, puis on a peu de temps, mais on va essayer de le faire quand même, là. Le criminellement non responsable. Et pourquoi avez-vous senti le besoin d'écrire sur le sujet?
En fait, la demande arrive souvent de la part du public qui tente de comprendre comment on arrive à faire des recommandations de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Et ça vaut la peine d'expliquer tout le processus parce que c'est un processus assez complexe. Ça peut prendre bien du temps.
Ouais.
Et puis, il y a des critères qu'on doit respecter en tant que psychiatre spécialisé en psychiatrie légale.
Ouais. Et vous dites, comment en arrive-t-on à une telle conclusion? Comment les spécialistes de la psychiatrie légale parviennent-ils à trancher d'un côté ou de l'autre? Avez-vous des réponses à ça, vous?
Nous, ce qu'on émet, c'est une opinion. Donc, on va laisser au juge ou au jury le soin de trancher, de prendre la décision finale. Mais ce que la Cour nous demande, c'est une opinion psychiatrique. Donc, sur l'existence d'un trouble mental au moment des événements qui ont amené les accusations. Et l'intensité de ce trouble mental-là et l'impact du trouble mental sur les comportements de la personne. Donc, c'est toute une séquence de questionnements auxquels on doit répondre. Et pour faire ça, on doit faire un travail le plus élargi possible pour multiplier les sources d'informations. Plus on a de sources d'informations, plus on peut mettre en place les pièces du casse-tête pour donner une opinion qui soit motivée, hein, qu'on a des explications à donner et des arguments qui se tiennent pour parler d'une non-responsabilité criminelle, par exemple.
Est-ce que vous, Dr. Proulx, est-ce que vos critères sont simples et clairs?
Les critères sont toujours sujets, je vous dirais, à interprétation. Hein? Il y a des nuances. C'est pas des critères comme on pourrait dire sur une radiographie, il y a une fracture ou il n'y en a pas. Donc, on est dans le facteur humain.
Ouais.
On est dans le comportement qui parfois peut paraître inexplicable. Et on doit, en tant que psychiatre, essayer d'expliquer justement ce qui ne semble pas explicable à première vue.
Ouais, ben moi le premier là, souvent je me dis, je le prends à l'envers, je me dis pour commettre un crime grave là, tu sais, on pense à Guy Turcotte là, tu sais, de tuer ses enfants, les poignarder, il faut que tu aies un problème de santé mentale. C'est clair que ça vient avec. Alors comment on départage tout ça de votre côté?
Ben d'une part, nous, on ne va pas être ceux qui vont déterminer que la personne qui est accusée a posé le geste ou non. C'est à la Cour de déterminer que la personne est coupable. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Deuxièmement, c'est que on doit distinguer ce qui est un trouble mental, hein, une maladie psychiatrique, de ce qui pourrait être, par exemple, des émotions. La colère, la tristesse, les sentiments de vengeance, ce ne sont pas nécessairement des maladies psychiatriques, c'est des problèmes. C'est de la souffrance. Mais ce n'est pas nécessairement un problème ou une souffrance qui fait en sorte que la personne est incapable de départager ce qui est bien ou mal, légal ou illégal. Et c'est un peu nos points de repère, mais c'est de voir jusqu'à quel point l'intensité des symptômes va altérer cette capacité de jugement.
OK. Je vous amène sur le terrain concrètement, là, Dr. Proulx. Là. Les gens qui regardent souvent les nouvelles, là, puis qui voient des gens être lâchés ou en tout cas aller en thérapie à la suite d'un verdict de non-responsabilité criminelle, Quelles questions on devrait se poser quand on lit ça dans les journaux? Parce qu'il y a eu des cas, là, je pense. Il y en a un qui a menacé une élue libérale. Là, il est trouvé non criminellement responsable. Là, tu dis, oui, je veux bien, mais c'est pas vous, là, qui êtes à risque, là. C'est, dans ce cas-là, une élue qui a peur de ce type-là, qui est relâchée. C'est quoi les questions qu'on doit se poser, nous?
Une fois que la Cour a jugé quelqu'un non criminellement responsable, il n'est pas remis en liberté automatiquement. En fait, il y a tout un processus d'évaluation du risque que la personne peut poser pour la sécurité d'autrui. Et ça peut être l'ancienne victime, ça peut être son entourage immédiat à cette personne-là, ça peut être d'autres personnes qui sont à identifier éventuellement, ou la société en général. Et c'est là qu'intervient un tribunal spécialisé qui s'appelle la commission d'examen des troubles mentaux. Mm-hmm. Et ça, c'est une section du tribunal administratif du Québec. Ce comité-là doit évaluer la personne avec des délais spécifiques après un nouveau verdict, puis ensuite annuellement, pour évaluer quel est le risque que cette personne-là pose pour la société si on élargit, par exemple, les conditions. Si on décide, par exemple, qu'elle peut quitter l'hôpital, ben ça sera à quelles conditions? Ce sera quoi les conséquences? Est-ce que ça va être de ramener à l'hôpital pour faire un arrêt d'agir, par exemple? Donc, la commission d'examen des troubles mentaux doit toujours se baser sur des critères de risque pour la société.
OK, je vous amène sur un exemple concret. La policière Maureen Brault, qui se fait tuer lors d'une opération à Louisville, en Mauricie, où on l'a tous vu, là. J'imagine, la commission d'examen des troubles mentaux avait relâché à 5 verdicts de non-culpabilité pour cause de troubles mentaux depuis 2014, Isaac Brouillard-Lessard, qui finit par tuer la policière Maureen Brault. En tout cas, on allègue qu'il l'a tué. C'est pas banal comme décision.
C'est des événements comme ceux-là, c'est des tragédies. Ça, on s'entend là-dessus. Et on fait tout pour les prévenir, c'est bien entendu. Mais la commission d'examen des troubles mentaux doit aussi prendre une décision à l'intérieur de ce que le cadre de loi lui permet. Et si, par exemple, la personne était totalement absente de risque de récidive, de violence, elle aurait été libérée sans aucune condition. Quand il persiste encore un risque, il y a, s'il y a une décision de libération, des conditions à respecter. Une des principales conditions qu'on va retrouver, par exemple, c'est la consommation de substances qui n'est pas autorisée dans ce contexte-là. Maintenant, c'est tout un processus. C'est qu'on doit toujours évaluer, et c'est pas toujours facile de le faire, le risque que la personne présente au moment de l'audience.
Ouais.
Quand il y a une révision de son statut. Après ça, on a plein d'imprévisibilité qui peut survenir. Une rechute toxique, l'arrêt du traitement, des facteurs de stress. C'est tout un défi pour la commission d'examen des troubles mentaux que d'essayer de prévoir l'avenir. Et les équipes de soins sont très à l'affût de ce que peuvent être les facteurs de risque et d'agir là-dessus. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a été libéré avec des conditions, puis qui agit de façon très violente, à chaque fois, je pense que les gens vont se remettre en question, mais doivent forcément agir à l'intérieur de ce que la loi nous autorise.
Okay. Avant, je vous l'avais dit, hein, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va sûrement refaire ça, Dr. Proulx, mais vous, là, vous comme femme, là, comme psychiatre, comment vous gérez le stress quand même, là? Parce que c'est de la pression, là. Vous avez pas une grande marge de manœuvre, là.
Ben, la pression, il y en a une, puis on s'en met une, puis la société nous en met une aussi.
Ouais.
Mais on travaille beaucoup en équipe. Et ça permet une diversité de points de vue. À Pinel, nous, on travaille avec des criminologues, des psychologues. On a du personnel infirmier, on a du personnel d'éducation, des sociothérapeutes. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Et puis, on essaie de multiplier, comme je le mentionnais tout à l'heure, les sources d'informations pour mieux documenter le risque. Mais ça peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. C'est un travail d'équipe. Puis qu'on puisse profiter à ce moment-là des connaissances et des informations que chaque membre de l'équipe peut nous donner.
La nature humaine, hein? Pas simple.
C'est pas simple. Et surtout, on n'a pas de boule de cristal. Parce que même quand je suis bien en forme, là, je suis pas capable de lire dans les pensées des gens.
Bon, c'est noté. J'invite les gens à lire votre texte dans Le Devoir hier sur le criminellement non responsable. Il y a une partie d'explication, en tout cas de réflexion à avoir sur la question parce que c'est omniprésent dans l'actualité. Docteur France Prou, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. À la prochaine.
Je vous en prie, ça a été un plaisir. Au revoir.